Bonjour à tous et bienvenue à l'EPI ce matin. Bienvenue à ceux qui sont en ligne, sont venus pour louer le Seigneur et bénir son Saint-Nom.
Son nom, là où tu donnes l'abondance et déverse ta bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sous moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, si la route semée de souffrance, si mon goût d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je veux dire. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, glorie. Béni, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, oui. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
Lorsqu'il est poursuivi par toute une troupe en armes, David, au plus fort de sa détresse, se tourne vers Dieu. C'est peut-être une situation que vous rencontrez aujourd'hui. Et il dit dans le psaume 34, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Notre prière, c'est que ce soit notre expérience à chacun et chacune ce matin. Que notre confiance, et je suis sûr que notre confiance est récompensée. Que nous soyons là en présentiel, que nous soyons en ligne, quelles que soient nos circonstances de vie. Il contrôle tout. Nous sommes limités. Mais il est illimité. Nous sommes là sur la terre, mais il est dans l'éternité. Et de son siège, il voit qui nous sommes, ce que nous traversons, ce que nous vivons. Et de tout notre cœur, nous choisissons ce matin, avec un effectif réduit, de dire « Béni soit le nom du Seigneur ». Amen. Seigneur, de tout notre cœur, nous sommes rassemblés en tant que peuple de Dieu, sommes unis au peuple du monde entier aujourd'hui dans cette journée particulière qui t'est dédiée pour dire combien nous t'aimons, combien nous souhaitons placer notre confiance en toi. Et tu vois toutes les circonstances, toutes les situations présentes au milieu de nous et aussi pour tous nos amis en ligne. Tu sais tout, Seigneur. Et nous décidons, nous choisissons, nous nous tournons vers toi. Et comme le dit ta parole, quand on tourne le visage vers toi, les regards vers toi, le visage ne rougit pas de honte. Tu nous délivres de la culpabilité, de la condamnation. Tu nous accordes ton pardon et tu as un regard favorable sur nos vies. C'est ce qui nous pousse ce matin te louer, te célébrer de tout notre cœur. Amen.
Comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi.
marcherai chaque jour dans ta grâce. Un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ici rien ne peut me satisfaire.
Jésus, ton amour me désaltère.
Ici rien ne peut me satisfaire.
Jésus, ton amour me désaltère.
Ici rien ne peut me satisfaire.
Jésus, ton amour me désaltère.
Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Voulons penser à ce que nous avons chanté. Sommes heureux, Seigneur, de te connaître. Voulons entrer en nous-mêmes et te dire combien tu es bon, combien ta présence change tout pour nous. Merci. Merci pour ce temps d'intimité. On est ensemble, mais pourtant en relation personnelle avec toi. Merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps de ressourcement, de restauration, peut-être de guérison pour quelqu'un. Oh, dans ta présence, tout est possible. Et dans le nom de Jésus, tout devient possible. Ce nom qui sauve, qui bénit, qui guérit, qui renouvelle, qui restaure. C'est tellement bon, Seigneur, d'être ensemble, mais c'est tellement bon d'être avec toi. Merci, Seigneur. Impossible d'être rassemblés sans penser à celui qui nous rassemble, à cause de qui nous sommes là et à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie saint délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu.
Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus. Notre roi.
Ô gloire au nom de notre
son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu.
Acclamons le Seigneur, offrons-lui une acclamation digne de sa grandeur. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ta victoire à la croix, merci de nous avoir pardonné, merci d'avoir changé nos vies, merci pour la vie nouvelle, pour le pardon de nos péchés, pour l'assurance du pardon, d'être pour toujours avec toi, merci Seigneur, alléluia, alléluia, nous voulons préparer nos cœurs pour la parole. Voulons préparer nos cœurs pour un message particulier que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère Pierre Samuel. Et je pensais à ce vieux chant qui nous dit « Quel repos céleste !» On vit dans un monde tellement perturbé, tout va tellement vite, tout est bousculé, chamboulé, tout est en mouvement. On n'a plus trop le temps de se poser. Bien, ce matin, le culte est un temps où l'on se pose. Bienvenue à chacun, chacune. Bienvenue à ceux qui sont tourmentés, bousculés par la vie. Et nous voulons vivre un temps de ressourcement, un temps où on va se poser. Quel repos céleste en tournant les regards vers Jésus.
Toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma
Quel repos Christ, nous pardonnez plus.
Te dire ce que disait Samuel, parle, Éternel, car ton serviteur, ta servante, écoute. Merci de bénir ta parole, bénir ton messager, bénir ton Église, tous nos amis. Merci de bénir l'impact de notre assemblée sur notre entourage, sur nos amis, nos voisins, nos collègues. Voulons repartir de ce lieu, visiter, encourager, afin de pouvoir bénir et encourager d'autres. C'est le but de notre rassemblement, c'est d'être proche de toi, d'être en ta proximité, afin que d'autres goûtent la proximité avec Jésus. Merci de ta fidélité, Seigneur, et merci pour ta parole. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. Soyez tous les bienvenus, ceux qui nous rejoignent en cours de route. On va laisser maintenant la parole à Pierre Samuel pour le message.
Amen. Quel repos céleste. Ça vous arrive des fois de pas forcément arriver à vous reposer complètement, de chanter quel repos céleste et puis des fois de se dire bon, bah mon repos, peut-être parfois un peu de mal à le vivre. Bah, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse échanger ce matin. Voilà, je pense que je suis bien là. Je suis bien ? Ouais ? La caméra, c'est bon ? Bien, c'est bon. Des fois, dans nos vies, on a peut-être un peu du mal à expérimenter cette notion de repos. Et on peut trouver pas mal d'explications sur pourquoi on n'arrive pas à expérimenter ce repos. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a été récupéré après avoir été abandonné par ses parents. Il est récupéré par un couple qui prend soin de lui, qui essaie de le prendre soin de lui. Et cet enfant, à chaque fois que les parents le croisent, il se tient comme ça, les mains serrées. Vous connaissez peut-être cette histoire, vous l'avez peut-être déjà entendue. Et les parents essayent les parents adoptifs, par défaut, essayent de l'aider, de lui donner à manger, de prendre soin de lui. Mais l'enfant bouge, se déplace, mais toujours les poings serrés. Toujours. Et tous les jours, c'est pareil. On lui donne à manger, etc. Il essaye de manger, mais il a les poings serrés. Et cet enfant vivait dans une situation tellement délicate qu'il n'avait pas à manger régulièrement, etc. Et c'était compliqué pour lui. Et il est rattrapé par cette famille qui prend soin de lui, qui essaye de faire au mieux, mais toujours, toujours, toujours les poings serrés. Ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent. Ils essayent d'ouvrir les mains, mais il ne veut pas. Les garçons ne veulent pas. Il ne veut pas. Et à chaque fois qu'il y a une possibilité, il ne veut pas. Et la famille essaye encore. Jusqu'au jour où, alors qu'ils sont à table, il propose une assiette, et dans cette assiette, il y a du pain. Et au moment où l'enfant voit ce pain, il regarde la famille, commence à ouvrir ses mains, et laisse tomber quelques misérables petites miettes de pain qu'il gardait précieusement dans ses mains, pour pouvoir prendre ce qu'il y avait sur l'assiette devant lui. Comprenez dans cette histoire que il arrive des moments dans notre vie où on est un peu comme ce petit enfant, où on garde, on garde, on garde, on garde, parce qu'on a peur de relâcher. Et j'aimerais vous parler ce matin d'un thème, peut-être qu'on... En tout cas, moi, je l'ai jamais abordé avant. Et le titre de mon message est celui-ci, « Quand le contrôle me contrôle ». Quand je suis contrôlé par le contrôle. Quand je suis comme... En anglais, on va utiliser cette expression « control freak ». Qu'on va aussi dire un maniaque du contrôle, un contrôle excessif. Qu'est-ce que c'est que le contrôle, le besoin excessif de contrôler ? Eh bien, c'est des personnes, des hommes, des femmes, qui sont dans des situations et qui ont besoin de contrôler les choses. Ce type de personne, elle peut avoir du mal à déléguer des responsabilités. Elle préfère faire tout elle-même parce qu'elle s'assure que les choses sont faites selon ses propres normes et ses attentes. Ces personnes ont tendance à chercher à exercer un pouvoir total sur l'environnement, ce qui peut être compliqué à la fois pour elles, mais aussi pour ceux qui sont autour d'eux. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de personnes ? Ces gens qui contrôlent ? Ou alors est-ce que peut-être... Non. Est-ce que nous, on n'est pas un peu parfois ce genre de personnes où on essaye de tout contrôler pour être sûr que tout va bien ? Ça vous est déjà arrivé ? On contrôle tout au détail près pour que voilà chaque chose soit bien mise en boîte, qu'on soit bien sûr et que comme ça on est sûr que tout va bien se passer. Et puis malheureusement, alors qu'on pourrait être dans le contrôle, il y a des choses qui se passent qui fait que ça vient bouleverser notre fonctionnement. Alors ce matin, j'aimerais vous parler justement du contrôle qui me contrôle et comment sortir de ce contrôle qui me contrôle. Ça va ? Ouais. Et pour tous les étudiants, rassurez-vous, je vais pas vous faire un contrôle. OK ? C'était facile celle-là. Et j'aimerais vous parler d'un texte biblique qui nous parle d'un homme dans une partie de sa vie, a cherché à contrôler la situation. Et vraiment la contrôler de manière assez intense. Mais à travers l'exemple qu'on va voir ensemble, on va comprendre que parfois, le contrôle, on n'est pas toujours conscient. On n'est pas toujours conscient de ce qu'on nous fait vivre nous-mêmes et de ce qu'on fait vivre aux autres. On n'est pas toujours conscient du contrôle. Et pourtant, on va voir que parfois, ça peut devenir très, 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 très compliqué. Et que ça serait peut-être pas trop mal si on pouvait réfléchir sur cet aspect-là pour se dire comment sortir de ça. Pourquoi ? Parce que bien souvent, le contrôle nous empêche de vivre libre. Le contrôle nous enferme, le contrôle nous bloque. Le contrôle, comme ce petit garçon, nous empêche d'être au bénéfice des réalités qui sont en face de nous, des bienfaits qui sont en face de nous, des bénédictions même que Dieu veut nous donner. Pourquoi ? Parce qu'on contrôle tout. Et vous allez voir qu'on est tous un petit peu des control freaks d'une certaine façon. Est-ce que vous voulez bien que je vous parle de Naaman ? Alors pour les Arméniens, on a parlé de Naaman il n'y a pas longtemps, mais je vais prendre un autre exemple. Et puis pour les aînés, on y en a parlé aussi, mais je vais l'aborder sous un autre angle. L'histoire de Naaman. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de Naaman? Oui? Si tu ne la connais pas, va voir les gars qui ont levé la main, comme ça il va te la... Non, on va la lire ensemble, ça sera plus simple. Naaman, c'est qui? Ben Naaman, c'est un chef de l'armée du roi de Syrie. On peut lire Deux Rois au chapitre 5 et au verset 1er. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur. Car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions, ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son seigneur, « La jeune fille du pays a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Il faut juste savoir que le contexte est compliqué à ce moment-là entre les deux rois. Et donc, ça fait que rajouter une couche au contexte historique vraiment compliqué. Puisqu'on sait que le roi d'Assyrie va envahir le pays d'Israël. Donc là, il y a vraiment un contexte compliqué et c'est comme si on allume une mèche encore plus. On met le feu aux poudres. Mais, et heureusement, et c'est là que j'aime bien, parce qu'il y a souvent des mais avec Dieu. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Facile, très bien, nickel, impec, tout va bien, tu vas te laver, t'es guéri. Mais là, la réaction de Naaman va nous interpeller. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Albana, Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos et il partait plein de colère. Et si on s'arrête là, c'est mal barré pour notre ami Naaman. Mais il y a la suite. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna près de l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre ici, à moi, ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » L'exemple de Naaman ici est un exemple parmi tant d'autres d'une forme de contrôle. Mais c'est aussi un exemple parmi tant d'autres de quand on est capable, possible, quand on arrive à abandonner les choses, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Et on va le voir ensemble. Et l'idée, c'est, à travers l'exemple de Naaman, de voir simplement des traits de caractère qui se rapprochent du contrôle et de voir si, moi, dans ma vie, est-ce que je ne suis pas un petit peu comme Naaman à certains points de ma vie. Ça va? Vous me suivez? On y va? J'aimerais vous parler de ma première partie. Première partie, c'est celle-ci. Le problème n'est pas le contrôle, mais le besoin excessif de contrôler. La réalité, c'est que ceux qui sont des maniaques ou ceux qui contrôlent énormément ont souvent des difficultés à faire confiance aux autres. Ils peuvent être perçus comme autoritaires, perfectionnistes. Ils sont souvent anxieux et stressés lorsque les choses ne se passent pas exactement comme ils l'ont planifié. Et ce comportement peut entraîner des conflits interpersonnels, des tensions dans les relations avec les autres, et ces gens et les gens qui sont autour d'eux se sentent étouffés, limités dans leur autonomie en la présence de ces personnes. Ma question, c'est en quoi cette définition, cette explication de quelqu'un qui contrôle se retrouve chez Naaman? Eh bien, ce qui va nous interpeller chez Naaman, c'est sa réaction. Comment il va réagir quand Élisée ne fait pas ce que lui attend? Comment on va voir que Naaman va simplement réagir? La Bible nous dit « Naaman fut indigné, il s'en alla ». Il explique des choses, il sortira en personne, etc. Et après, il tourne le dos et il part plein de colère. La réalité de ce qu'on est en train de découvrir ici, c'est qu'à partir du moment où on ne fait pas comme on a envie, où on nous demande de faire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on veut ou ce qu'on pense être la bonne chose, eh bien forcément ça provoque en nous quelque chose qui vient nous déstabiliser. Comment on sait que Naaman est quelqu'un qui contrôle? C'est qu'à un moment, face à une chose qui n'a pas l'habitude, ça vient le bousculer au fond de lui-même. Ça provoque chez lui deux choses, l'indignation et la colère. L'indignation parce que ça vient de toucher l'intérieur, mais il n'a rien compris cet Élisée. Il ne sait vraiment pas faire. Et puis la colère parce que l'indignation au bout d'un moment fait que je n'ai pas fait tant de kilomètres pour ça en fait. S'il savait qui j'étais, moi, Naaman, le Syrien, le chef de l'armée, celui qui est estimé par le roi. Mais ma question est, pourquoi Naaman veut-il contrôler la situation? Qu'est-ce qui fait que Naaman a envie de contrôler cette situation? Bien, il est face à une chose qu'il ne peut pas contrôler. Cette chose qui s'appelle la maladie. La maladie qu'on ne contrôle pas. Et beaucoup d'entre nous ici, on est passé par des temps de maladie. Et quand tu es face à la maladie, il y a bien quelque chose qu'il faut dire, c'est... Je sais pas. Je comprends pas. J'ai pas l'explication. Pourtant, je prie, je suis sérieux dans ma relation avec Dieu. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas d'explication. Et c'est un aspect de notre vie qu'on ne contrôle pas, la maladie. Et c'est dur à vivre. Il faut bien le dire entre nous. Il y a des moments, quand tu passes par la maladie, t'as beau dire ce que tu veux, être chrétien depuis autant d'années que tu veux, tu sais pas. Tu comprends pas. T'as pas les mots. T'as pas les mots qui vont te permettre d'expliquer. Et vous êtes nombreux ici à y être passés. Quand on est touché face au deuil, quand on passe par des moments compliqués, quand on est face à des choses qui nous emprisonnent, la réalité, c'est qu'on n'a pas toujours des explications. Sauf que là, notre cher Naaman, on lui donne l'opportunité d'avoir un accès et de pouvoir contrôler quelque chose. Quelle est cette opportunité? C'est cette opportunité d'aller rencontrer un prophète qui guérit. On lui donne une opportunité d'avoir un impact sur la maladie, puisqu'il n'a jamais pu la contrôler. Ce qu'on sait dans les commentaires bibliques, c'est que la lèpre dont il est atteint aujourd'hui est certainement au premier stade. Pourquoi? Parce que s'il était dans les stades terminaux, eh bien, il ne pourrait contacter personne, il ne pourrait être au contact de personne à cause de la dangerosité de la contagion de la maladie. Donc il est certainement dans les premiers stades. Il y a encore quelque chose qui est faisable. Mais ce qu'il sait très bien aussi, Naaman, c'est que si rien ne se passe, sa fin va être très, très, très rapide. Et on a tous, vous avez déjà lu dans la Bible, des exemples de la lèpre et de l'impact que ça a autour avec les gens qui criaient « lépreux, lépreux, lépreux » avant de pouvoir se déplacer, tellement c'était la peur de la contagieux. Naaman sait très bien dans quelle situation il est. Et il arrive à un moment, comme un temps déterminé, où s'il ne se passe rien, c'est la fin pour lui. Et il peut avoir toute la réussite qu'il veut, il peut contrôler tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas contrôler la maladie. Chers amis, c'est des choses qui nous arrivent régulièrement. On peut contrôler toutes nos parties de la vie, on peut essayer d'avoir tout bien organisé, bien ficelé, mais quand la maladie te touche, quand l'échec te touche, quand les difficultés te touchent, tu ne contrôles plus rien. Qu'est-ce qui reste de toi et de moi au moment où on se retrouve sans rien, sans force, avec plus rien? Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que Naaman, c'est le chef de l'armée. Comprenez bien, c'est le second dans l'histoire. Il y a le roi et le chef de l'armée. Lui, il claque des doigts, on lui obéit instantanément. Dans sa fonction, dans sa mission, il contrôle déjà tout. Il contrôle les armées, c'est son boulot. Il contrôle, il doit organiser, il est stratège. C'est ça, ça fait partie de la fonction qui est la sienne. C'est un homme qui contrôle tout. Et en plus de ça, la Bible nous dit qu'il est fort et vaillant, il est estimé du roi. Preuve que ça marche quand il contrôle. Parce que, on en parlera un petit peu, parfois le contrôle fait que les choses marchent. Bah oui, parce que quand on fait tout comme on veut, ça marche comme on veut. Et bien souvent, le caractère de quelqu'un qui contrôle est hérité par rapport à la fonction qui est la sienne. Tu comprends, dans ma mission, je suis obligé de contrôler. Et c'est bien, ça peut même venir d'autres origines, d'une famille, d'arrière-plan, de papa, de maman, qui étaient des militaires, qui étaient des gens organisés très carrés. Je dis les militaires, pourquoi ? Parce que dans certaines familles, les militaires sont très organisés. Moi, je me souviens, on est 8 enfants, ok ? Mon papa est là, donc je peux le dire, j'ai pas de problème. Chez nous, c'était organisé. Il y avait des placards avec tous les machins, avec tous les prénoms de chaque enfant, et on mettait nos chaussures au bon endroit. Il y avait, franchement, alors je vous le dis, on avait un F5 et un F6 réunis. Et on avait 9 chambres. Et une des pièces était réservée à la buanderie. Qui c'est qui fait le linge là à la maison ? Ok, quand tu fais le linge pour 8 enfants, tu fais le linge pour 8 enfants. Et heureusement que j'avais une famille qui était organisée. Et je me souviens, j'arrivais, alors les étagères, elles sont placées comme ça, tel endroit, tel là, voilà, ta pile de linge, elle est là. Tu prends pas sur la pile de ton frangin, parce que sinon ça va pas aller. Tu prends sur les chaussettes, faut bien les plier par deux. Et les chaussettes, c'est pas un truc horrible. Jamais t'as deux fois la même chaussette. Papa, on a tout essayé. On a essayé les pinces à linge, on a essayé de mettre. À la fin, on a acheté toutes les mêmes chaussettes, comme ça on est sûr qu'il n'y a plus de problème. Comprenons ensemble, je plaisante, mais vous avez bien compris. C'est que parfois, la nécessité de s'organiser, elle est bonne, elle est nécessaire, on n'a pas le choix. Mais le problème, et c'est ce qu'on voit ici avec Naaman, c'est qu'il a tellement un besoin de contrôler que même ses relations sont tendues. Et tu deviens tellement, tellement, tellement fermé que plus personne n'a envie de parler avec toi. Alors comment il va chercher à contrôler Naaman ? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va acheter, il va penser pouvoir acheter sa guérison. La Bible nous dit qu'il va prendre 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. On a fait une estimation des commentaires bibliques, ça fait une estimation à peu près de 1 million d'euros. Vous imaginez ? Pour acheter la guérison. Est-ce qu'on peut le blâmer ? Non, on ne peut pas le blâmer. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand tu allais offrir une offrande au dieu, on parle du dieu Rimmon dans la Bible, mais il y a Astarté, il y a d'autres dieux qui sont cités, qu'on sait que les Assyriens adorent ces dieux-là. Eh bien, tu achetais finalement l'approbation d'un dieu en faisant une offrande. C'était logique pour lui de fonctionner comme ça. Donc quand il va voir Élisée, il se dit, c'est logique que je prenne de l'argent parce que je vais acheter ce qui va se passer. Et d'une certaine façon, on est aussi un petit peu comme ça. Seigneur, si tu fais ça, alors moi je fais ça. Si tu me guéris, alors j'irai plus loin. Si tu vas plus loin, je m'engagerai plus. Si tu bénis ça, je ferai ça. Et on met des conditions, on achète d'une certaine façon l'approbation de Dieu. Seigneur, je vais lire tous les jours ma Bible, comme ça je suis approuvé de Dieu. Le problème, ce n'est pas la lecture de la Bible. Au contraire, lisons-la, faisons-nous du bien. Mais ça ne peut pas être l'élément qui t'amène à gagner l'approbation de Dieu. Parce que ça ne marche pas. La réalité, c'est qu'on ne gagne pas l'approbation de Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Tout simplement. Ce n'est pas en fonction de ce que tu vas faire. C'est parce que lui a décidé de t'aimer. Et lui, Naaman va acheter. Et puis après, une fois qu'il se dit, je vais essayer d'acheter, ça ne marche pas forcément, il va faire des propositions. Premièrement, il va se rattacher à ce qu'il connaît. Et il va dire, les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que les cours d'eau d'Israël ? Un des commentaires dans la Bible nous disait, se laver dans un grand fleuve est une chose, mais le Jourdain est étroit et salin. S'y baigner lui paraît indigne de sa position. Et ce que Naaman fait à ce moment-là, c'est qu'il se rattache à ce qu'il connaît. Pourquoi ? Parce que quand on aime le contrôle, on aime se rattacher à des choses qu'on connaît, à des choses qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est plus facile, ça rassure et ça fait moins peur. Et puis après, il propose des solutions à Élisée. Il aurait fait un geste de la main. Et puis j'aurais qu'à juste me laver dans mes fleuves à moi. Et puis comme ça, ce sera plus simple. Et entre nous, on fait ça avec Dieu quand même. Un petit peu. On dit à Dieu comment il devrait agir, non ? Seigneur, tu devrais faire ça, c'est sûr que ça va mieux marcher. Puis Dieu ne fait pas forcément comme on a envie. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, bah, Dieu n'est pas fidèle. C'est vrai ? Où est Dieu ? Parce qu'il ne répond pas. Parce qu'on donne comme à Dieu des directives divines. Alors, on est tous un peu comme Naaman. On peut être, je pense souvent à ses parents qui sont inquiets pour le futur de nos enfants, et c'est légitime. Et du coup, on contrôle tous les faits et gestes de nos enfants. On peut être ses amis qui, par peur de perdre l'amitié, contrôlons, dirigeons. On peut être ce chef d'entreprise qui contrôle chaque fait et geste de ton employé pour être sûr que ça tourne bien. On peut être un employé qui contrôle chaque fait et geste de son patron pour être sûr qu'il soit payé pour rien, pour quelque chose. On peut être des chrétiens qui regardons les autres et qui nous assurons qu'ils sont bien en règle dans leur vie avec Dieu. On peut être des pasteurs qui s'assurent que tous les chrétiens lisent bien leur Bible tous les soirs. Et on peut être des chrétiens qui s'assurent que tous les pasteurs sont bien payés pour quelque chose. On peut être des jeunes et des ados qui recherchent absolument à respecter tous les principes, pour être sûr, les principes de la Bible pour être sûr d'être approuvés de Dieu. Des personnes âgées, ne vous inquiétez pas, on en prend tous pour notre grade. Et dès qu'on sort un peu de notre cadre, du cadre qu'on a fixé, qu'on nous a enseigné, ben on ne supporte plus parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on a connu. En fait, le contrôle est partout. Et il devient dangereux à partir du moment où le résultat est plus important que la relation. Je vais aller même un peu plus loin. Le contrôle peut arriver très souvent, et il est insidieux, dans notre vie personnelle, dans notre relation avec Dieu, entre toi et Dieu, entre moi et Dieu. Pourquoi ? Parce que tu cherches tellement à contrôler ta vie avec Dieu en faisant tout ce qui est juste et bien, parce que tu te dis que c'est le processus de sanctification, parce que c'est par là que je dois marcher. Tu arrives à un tel point où tu veux respecter toutes les lois que tu rentres dans une forme de culpabilité, où tu es comme accusé, parce que tu n'en fais jamais assez, parce que tu n'es jamais assez bien pour Dieu, parce que tu ne respectes pas assez, parce que tu ne donnes pas assez, parce que tu ne pries pas assez. Et on rentre dans un effet inverse, en fait, où nous contrôlons notre propre relation avec Dieu de façon à pouvoir gagner une approbation. Le contrôle, chers amis, est partout. Et le problème, c'est que le contrôle excessif nous pousse vers un temps où on n'est jamais en paix. Et Michel a chanté ce chant « Quel repos céleste ». Et parfois, j'ai bien, on doit le dire, on a du mal à chanter ce chant. Jésus, d'être à toi quand j'abandonne toute ma vie entre tes mains. Ce n'est pas forcément évident. Comment trouver cet équilibre entre, ben oui, il faut quand même que je fasse les choses, que je m'organise, il faut quand même que je contrôle une partie, mais comment trouver cet équilibre entre ça et le contrôle excessif qui m'empêche de vivre ? Ben c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. On va en parler ensemble. Je vous propose qu'on arrive à ma deuxième partie qui s'appelle « Dieu est au contrôle de tout, mais ne contrôle pas tout ». Dans certaines de nos situations, le besoin de contrôle, il peut être justifié. On en a parlé tout à l'heure. Dans le domaine professionnel, etc., c'est nécessaire. Mais quand il devient excessif, c'est compliqué. Alors comment Dieu lui fait ? Dieu est au contrôle de tout, ça veut dire qu'il connaît chaque chose de ta vie, chaque détail. Il connaît la situation pour laquelle tu es venu aujourd'hui et il connaît ce qui te bloque aujourd'hui. Il sait vraiment tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu, la Bible nous dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il peut tout, il sait tout, il connaît tout. Dieu sait tout. Et Dieu aujourd'hui te dit encore, « Eh, t'inquiète, je suis là parce que je connais ce que tu vis. » Mais en même temps, en parallèle de ça, il y a cette tension constante entre « Il connaît tout, il sait tout, mais ce n'est pas un Dieu qui fait de toi un pantin où tu n'as rien à dire de ta vie. » La réalité, c'est que Dieu est un Dieu qui est souverain, mais qui te laisse prendre tes décisions. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est un père aimant qui sait ce qui est bon pour toi, qui va t'encourager à vivre ce que tu dois vivre, mais il ne va pas t'obliger à vivre ce que tu as à vivre. Il va te le proposer. Pour moi, je le vois comme ça. Quand j'étais enfant, j'ai fait de la musique et pendant plusieurs années, j'ai fait du conservatoire. Et j'ai fait de l'orchestre. Et vous savez, le chef d'orchestre, vous avez déjà vu un orchestre ? C'est une organisation extraordinaire. Et pour moi, je vois Dieu comme un chef d'orchestre. Attendez, on va l'illustrer. Est-ce que je peux vous prendre 4 minutes de votre temps ? Ok, je vous propose qu'on regarde une vidéo ensemble. Et à travers cette vidéo, après, on en tire les principes. Vous êtes ok ? Ouais, ça va ? Ok, c'est la technique, merci. Si on peut balancer cette vidéo. Mais moi, cette vidéo, elle me... En plus, ce chant là, qui parle de la puissance, de la grandeur de Dieu, waouh! Et moi, ce que j'aime particulièrement dans cette vidéo, c'est que si vous regardez bien, le caméraman cible tous les musiciens. On les voit tous. Et on pourrait croire que le plus important, c'est même Michael Smith, qui est le gars au piano. On pourrait croire que c'est lui, parce que c'est effectivement, c'est lui qui est à l'origine de ce projet, etc. C'est un projet qui est sur Internet, que vous pouvez découvrir, qui est juste extraordinaire, où il a repris pas mal de chants, qu'il a mis avec un orchestre symphonique, et c'est juste, waouh, techniquement, c'est juste magnifique. Mais en fait, le plus grand dans cette équipe-là, c'est celui qui porte la petite baguette. C'est celui qui est derrière, qu'on voit une ou deux fois dans la vidéo éventuellement, mais c'est lui qui dirige tout. Si lui fait ça, ça s'arrête. Si lui fait ça, ça reprend. La réalité dans cette vidéo, et c'est ça que je trouve juste extraordinaire, c'est que ça me montre exactement comment Dieu fonctionne avec toi et avec moi. Le chef d'orchestre connaît le rendu final, comme Dieu connaît le rendu final de nos histoires. Le chef d'orchestre connaît chaque partition de chaque instrument, de la même façon qu'il connaît chaque détail de ta vie. Chaque instrument est libre de jouer ce qu'il veut, comme on est libre de choisir Dieu ou pas. Vous allez me dire, mais non, ils ne sont pas libres. Ben, la réalité, c'est que si, ils sont quand même libres. S'ils décident de faire n'importe quoi, même si ça impacte le reste du groupe, il est quand même libre de faire ce qu'il veut avec son instrument. Mais chaque instrument mis bout à bout devient un orchestre extraordinaire, sous la conduite d'un chef d'orchestre de qualité. Comme chacun d'entre nous, quand nous rentrons sous le contrôle de Dieu, devenons un chef-d'œuvre extraordinaire capable d'accomplir des choses extraordinaires. Et j'aime aussi, chaque instrument a de la valeur. De la même façon que chacun d'entre nous ici, nous avons de la valeur. Dieu est au contrôle de tout, mais il ne contrôle pas tout. Quand tu laisses à Dieu le contrôle dans ta vie, il est capable de sortir des mélodies juste extraordinaires. Des choses qui te dépassent. Moi, ce chant, je vous le dis, chaque fois que je l'entends, à la fois par ce que l'orchestre va créer, mais aussi par les paroles qui sont derrière, ça vient nous chercher. Et quand je réfléchis à Dieu, qui est un Dieu tout-puissant, Dieu extraordinaire, je comprends que si je suis prêt à prendre de ma vie et dire, Seigneur, prends le contrôle sur ma vie, tu vas faire des choses extraordinaires qui viennent me chercher au plus profond de mon cœur. Mais comme on a vu avec l'histoire de Naaman, on a toujours le choix. Naaman était sur le point de repartir. Dieu peut te laisser dans ta zone de contrôle si tu te sens mieux dans ta zone de contrôle. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça risque d'être compliqué. Naaman est face à un choix. De la même façon, on a le choix, nous aussi, soit de rester comme on est, soit de dire, Seigneur, j'ai besoin d'avoir ce chef d'orchestre qui soit au-dessus de moi. Et de dire, Seigneur, je veux faire confiance, malgré tout. Ça m'amène à ma troisième partie. Faire confiance à Dieu n'est pas un manque de contrôle, mais un choix de liberté. Ce n'est pas parce qu'on fait confiance à Dieu qu'on ne contrôle plus notre vie. C'est simplement qu'on le laisse prendre la liberté. J'aimerais juste être vigilant sur ce point. Parfois, quand on contrôle, il y a des choses que, entre guillemets, c'est plus fort que nous. Ça nous tient depuis des semaines, des mois, des années, une vie entière où on est bloqué sous le contrôle. Et ce que j'aime dans l'histoire de Naaman, c'est qu'il y a une coopération extraordinaire entre le pas de foi de Naaman et la guérison de Dieu. Entre l'action de Naaman et l'action de Dieu. La coopération qu'on trouve entre les deux fait toute la beauté de ce qu'on vit et la beauté du miracle de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir pour terminer sur ma troisième partie. Naaman, ok, on a bien compris que c'est un élément, il y a plein d'éléments qui provoquent en lui le contrôle. Mais qu'est-ce qui va se passer juste après? Au verset 13, il nous est dit, lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il dit, lave-toi et tu seras pur. Et il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. La première clé qui va nous amener à découvrir pleinement la liberté, ça s'appelle l'humilité. Comment un grand général des armées peut écouter un petit serviteur comme ça? Comment un grand général des armées peut écouter une petite servante? Comment un grand général des armées peut aller s'approcher d'un prophète qu'il n'a jamais rencontré? Juste parce que Naaman, à un moment, a plié le genou. En fait, une des problématiques qui sont dans le contrôle, c'est la notion de l'orgueil. Alors, Attention, je ne fais pas des raccourcis trop rapides. Tous les contrôles, tous ceux qui contrôlent tout le temps ne sont pas tous des orgueilleux, c'est pas soi. Mais simplement, parfois, eh bien, c'est l'orgueil qui prend la place, en fait. Et qui nous empêche réellement. Parce qu'on pense qu'on fait mieux, parce qu'on pense qu'on sait mieux, parce qu'on pense qu'on est au-dessus, parce qu'on pense que... Et la réalité, c'est que la clé qu'on a, c'est de se dire, Seigneur, face à tout ce que je rencontre, eh bien, il y a une part quand même où je dois apprendre à plier le genou et à m'humilier. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi. Et parfois, Dieu va placer sur ton chemin des petits bonhommes, des petits serviteurs, des petits gens, des petits gars, des petites filles qui s'arrivent et qui viennent te challenger dans ta foi. Et si Dieu déplaçait et te parlait à travers quelque chose d'un problème, il a parlé à travers un âne. Il peut bien te parler à travers ton voisin. Je ne dis pas que les voisins sont des ânes. Hein. Comprends bien, comprenons bien. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, parle-moi ? De ta façon, viens challenger mon orgueil, Seigneur, afin que, Seigneur, je reste tous constamment branché sur ton cœur, branché sur le ciel. Le plus bel exemple d'humilité qu'on peut découvrir, c'est celui de Jésus. Écoutez bien, Jésus avait la puissance. Amen. Il a l'autorité. Il a la force. Il a la sagesse. Il a tout. Il a tout. Et pourtant... À aucun moment il s'impose par la force. À aucun moment il vient écraser. À aucun moment il vient te dominer. À aucun moment il est cette espèce de warrior qui va venir tout exploser dans ta vie. Non ! Regardez ce que la Bible dit à propos de Jésus. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. C'est dans Philippiens 2,5. Lui qui de condition divine, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. La clé pour que Jésus soit élevé, c'est qu'il s'est humilié. Chers amis, on est ensemble, on parle cœur à cœur. Ce matin, il y a un challenge, il y a un choix à faire. Seigneur, je dépends de toi. Je veux m'humilier sous ta main parce que je sais que tu sais tout, je sais que tu es au-dessus de tout. Et attention, humilité, ce n'est pas humiliation, c'est deux choses différentes. L'humilité, c'est de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui est plus fort. Il y a quelqu'un qui peut prendre soin de ta situation, même si tu ne la contrôles pas. Amen. La deuxième clé, on a vu l'humilité, la deuxième clé, c'est la confiance. La réalité, c'est que le contrôle excessif, c'est souvent la traduction d'un manque de confiance. Manque de confiance par rapport à plusieurs choses. Et c'est normal quand on vit des échecs sur échecs. C'est normal quand on doit se battre toute notre vie. C'est normal quand notre vie est toujours compliquée. Je discutais encore récemment avec une personne qui me disait « Mais PS, je me bats depuis que je suis gamine ». Je dois toujours me battre. C'est normal qu'à un moment, il y ait une carapace qui fait qu'elle veut tout contrôler. C'est normal. Elle s'est toujours battue. Mais il y a juste un truc, c'est que même si tu t'es toujours battue avec Dieu, tu n'as pas besoin de te battre. Naaman s'attendait à quelque chose de bien précis, mais pas à cela. Mais en acceptant la parole du prophète, il fait confiance même quand il ne voit pas. Je crois que sortir du contrôle excessif, c'est apprendre d'abord à faire confiance à Dieu qui prend soin de nous. Mais c'est aussi apprendre à faire confiance aux autres, même s'ils ne nous ressemblent pas, même s'ils sont différents. C'est dépendre de l'autre, et ça, on n'aime pas. Mais croyez en notre expérience avec Lise. Dépendre de l'autre, c'est très compliqué. Mais parfois, c'est le chemin par lequel Dieu nous fait passer. Et puis, je crois que c'est parfois apprendre à se faire confiance à soi-même. Quand tout est bien fait, quand tu as fait les choses qu'il fallait faire, laisse Dieu faire. T'as fait ta part, t'as fait ce qu'il y avait à faire. Laisse Dieu faire. Fais-toi confiance un peu. Vraiment, fais-toi confiance parce que Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné une valeur, Dieu t'a donné une identité. Fais-toi confiance. Je me souviens, la première fois que j'ai à cœur de prendre un groupe d'ados, je vais voir mon pasteur et je lui dis, écoute, voilà, j'aimerais vraiment... Enfin, il y a un super travail qui s'est fait au niveau de la jeunesse, il y a un super travail qui est fait au niveau de l'enfance, il n'y a rien qui est fait pour les ados. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui le fasse? Et à ce moment-là, mon pasteur, il vient me voir, il me dit, il me regarde comme ça, il me dit, fais-le. Les ados, ils ont quelques années de moins que moi, ça ne va pas être possible. Il m'a fait confiance. Il m'a fait tellement confiance qu'aujourd'hui, je suis le responsable national des ados. Non pas que je me mette sur un pied d'égalité. Vous avez bien compris, c'est pas ça que je parle. C'est juste qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a fait confiance. De la même façon, et il a fallu que moi je prenne ma place. Il a fallu que j'y aille. J'ai fait des erreurs, j'ai eu des échecs, je me suis planté. Mais par la grâce de Dieu, on s'est relevé, on a avancé. Fais-toi confiance. Arrête de toujours en train de te dire je suis pas à la hauteur, je suis pas bien, je suis pas ci, je suis pas cela. Fais-toi confiance parce que Dieu te fait confiance. Amen. Le contrôle excessif ou l'absence de contrôle est une question de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Humilité, confiance. Et puis le dernier, un mot qu'on n'aime pas trop, mais qu'il faut quand même qu'on dise ensemble, c'est l'obéissance. La foi sans les actes, c'est compliqué. Croire que Dieu agit, mais ne pas le mettre en pratique, c'est compliqué. Je pense que Naaman a pu dire, ok, très bien, eh bien je crois que si je me plonge, ça va se passer. Et puis s'arrêter là, puis repartir. Il aurait cru. Mais si à un moment il n'avait pas fait le pas de se plonger sans savoir ce qui allait se passer, même dans cette eau qui était certainement sale, s'il n'avait pas fait le pas de le faire, ben il ne se serait rien passé. Il y a un pas de foi à faire quand on a reconnu, quand on a compris. Et je pense que ce pas de foi, c'est de simplement dire « Seigneur, je mets le pas même si je ne vois pas. J'avance même si je ne connais pas. » Il y a ce texte de Jacques, chapitre 2, verset 20, qui est assez dur, en tout cas au début, mais qui est vraiment vrai pour le coup. Jacques Devin nous dit « Veux-tu reconnaître ?» Et là, ça, j'aime pas trop cette phrase, mais on la lit quand même. « Homme sans intelligence. » Comme ça, c'est fait, c'est dit. « Que la foi sans les œuvres est morte. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré juste, comme juste pardon, sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu. » Et cela lui fut compté comme justice et il a été appelé ami de Dieu. Il a été appelé ami de Dieu. Alors, je sais, tu ne sais pas ce qui va se passer, c'est compliqué, ça fait peur. Je sais, quand tu ne contrôles pas, tu as l'impression de perdre pied. Je l'entends, on l'entend et on le vit tous. Mais nous plonger dans les bras de Dieu fait qu'il te maintiendra, t'aidera à marcher, même quand tu ne vois pas la suite. C'est lui qui aura cette capacité à te porter, à te soutenir, à t'encourager. On a vu la semaine dernière avec le message de Anne, quand elle a laissé tomber, c'était Rachel, je crois que c'était ça. Ouais, c'était Rachel. Quand elle a laissé tomber, c'était vraiment, tu te laisses tomber dans les bras de Dieu et qui t'aide à te relever et à marcher. C'est ça en réalité, c'est dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que tu es avec moi. Et ce que j'aime dans le texte qu'on vient de lire, c'est que Abraham a eu les deux, c'est-à-dire qu'il a eu la foi, et en même temps, il s'est mis en route. Et en se mettant en route, qu'est-ce qu'il fait ? Il devient ami de Dieu. Et la réalité, c'est que quand tu es dans une vraie relation d'amitié, tu n'as pas besoin de contrôler. Vrai ou faux ? La vraie relation d'amitié, cette amitié proche, tu n'as pas besoin de tout contrôler tout le temps. Tu as juste besoin de dire, ok, on s'entend et on se comprend. Naaman va expérimenter une guérison sans pareil qui va changer radicalement, non seulement toute sa vie, mais imaginez-vous, celui qui a conquis le peuple d'Israël, celui qui a vaincu le peuple d'Israël, devient l'adorateur du Dieu d'Israël. C'est pas un truc de fou. Quand tu abandonnes ta volonté pour tout, de tout contrôler, t'entres pleinement dans les promesses de Dieu. Amen. J'arrive à la conclusion, et si Michel, tu peux revenir avec la guitare, et puis on va prendre un temps pour prier. Ma conclusion, elle est simple. On passe tous par des moments qui sont parfois compliqués, et le contrôle, c'est la première réaction qu'on a. Et comme on l'a bien compris ensemble, tout n'est pas toujours mauvais dans le contrôle. On se souvient de ce chef d'orchestre. Mais quand le contrôle excessif devient quelque chose qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'avancer, bien, il y a juste un pas à faire qui n'est pas forcément évident, qui est d'abord de reconnaître que tu contrôles. Et puis de se dire, mais Seigneur, ok, j'ai compris, c'est bon. Il est assez appuyé dessus, c'est bon, je connais. Maintenant, j'ai besoin de Dieu. j'ai besoin de toi. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe, j'ai besoin. Et par humilité, avec foi et obéissance, Seigneur, j'abandonne tout. Je laisse tout à tes pieds. Et j'entre pleinement dans la vie, dans la liberté que Dieu m'offre. J'aimerais terminer par ce dernier exemple. Dans la Bible, vous connaissez certainement Nicodème. Et Nicodème va s'approcher de Jésus, va discuter avec lui. Et Jésus va lui dire, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème va dire, mais un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il retourner dans le sein de sa mère? Non, c'est pas ça. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu sois né de nouveau en laissant le Saint-Esprit te transformer. Vous savez, le contrôle, c'est souvent notre chair qui nous pousse vers le contrôle. Mais si tu soumets ton esprit à Dieu, si tu laisses le Saint-Esprit prendre toute la place dans ta vie, il va t'accompagner dans cette zone d'incertitude qui est la tienne. Et si on laissait le Saint-Esprit prendre la place dans notre vie, si on laissait le Saint-Esprit contrôler notre vie, mais il la contrôle bien, si on laissait le Saint-Esprit prendre toute sa place, la Bible nous dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. L'Église de l'Épi, on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit dans tout ce qu'on vit, dans nos situations personnelles, dans notre quotidien. Et le Saint-Esprit a cette capacité à te faire marcher là où tu ne vois pas et à déposer en toi une paix qui surpasse toute intelligence. On peut fermer les yeux ensemble? Et j'aimerais prendre, peut-être pas longtemps, mais un temps où on peut juste se remettre devant la face de Dieu. Et ici, peut-être dans cette matinée, ce matin, tu es là et tu dis, ben, moi je suis ce Naaman, peut-être pas autant que tout ce qui a été dit, mais sur certains aspects de ma vie, je suis Naaman. J'ai besoin d'abandonner ma vie à Dieu. J'ai besoin de laisser le Saint-Esprit travailler mon cœur. J'ai besoin de découvrir Jésus. J'ai besoin vraiment de découvrir son amour, sa paix et ce repos dont on a parlé. Je veux abandonner. Alors si tu as envie de faire ce pas de foi, ben, on va prendre le temps de prier ensemble pour toi. Je t'inviterai peut-être comme un pas de foi justement à te mettre debout à ta place et dire, Seigneur, et on garde tous les yeux fermés comme ça ne nous regarde pas, c'est entre toi et Dieu. Mais c'est comme un peu ce Naaman qui met le pas de foi. Bah, Seigneur, je suis là et je veux juste abandonner tel aspect de ma vie. Je ne comprends pas, mais je veux abandonner tel aspect de ma vie parce que je sais que tu prends soin de moi. Seigneur, je veux vraiment déposer ce qui me bloque aujourd'hui, ce qui me contrôle. Le seul qui doit me contrôler, c'est toi et tu le fais de la meilleure des façons. Jésus, j'ai besoin de toi. Et si tu n'as pas besoin de te lever, tu as le droit et tu es libre, bah tu peux prier pour ceux qui ont osé se mettre debout, sans les regarder, mais juste prier pour eux. Et on va prier ensemble. Et après, on prendra un chant qui va nous ramener au secours de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce qu'on vit ce matin. Je te remercie parce que encore dans cette matinée, tu nous rappelles combien tu es le Dieu qui est capable de guérir aujourd'hui. Tu es capable d'agir. Mais tu viens challenger un aspect de notre vie. Tu viens nous rappeler combien, Seigneur, tes bras d'amour sont là autour de nous pour nous soutenir, nous porter. Et je veux te prier pour chaque personne qui est ici comme bloquée par le contrôle. Afin, Seigneur, que tu puisses déposer dans leur cœur ta paix. Tu viennes déposer dans leur cœur une paix qui surpasse toute intelligence. Que tu viennes déposer, Seigneur, tu viennes développer leur foi en toi. Ils puissent faire ce pas de foi de dire, Seigneur, je dépose vraiment ce fardeau parce que je sais que c'est toi qui le portes. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont sous l'emprise de quelqu'un qui les contrôle, afin qu'ils puissent prendre du recul et dire, Seigneur, maintenant j'ai besoin de te découvrir, toi, celui qui veut prendre le contrôle de ma vie, mais de la bonne façon. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont enfermés d'une façon ou d'une autre, afin que tu amènes un temps de libération ce matin, que ton Saint-Esprit souffle dans ce lieu, que tu viennes travailler le fond des cœurs. Et que tu amènes, Jésus, à la plus belle de toutes les mélodies, comme on a vu dans ce chant. Que tu nous amènes à expérimenter la joie de la liberté en Christ. La joie du salut, la joie de la paix en Christ. Et qu'on puisse découvrir que Jésus n'est pas mort en vain, mais qu'il est mort pour notre liberté. Qu'il est mort pour que nous soyons libres et pleinement libres. Merci, Jésus. Amen.
Thank you.
si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux sommet, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours.
En toi.
Je lève les yeux.
Je lève les yeux vers le sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours.
Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours.
Amen. Je prends juste la parole avant de laisser à la conclusion à Michel pour vous dire que c'était la dernière fois que je prêchais ici. Mais je reste encore, je serai là encore jusqu'au 6, on a quelques jours. Mais Lise, après, va partir avec les enfants puisqu'on déménage cette semaine. Et du coup, voilà, vous dire que... Lise, tu peux venir deux minutes et puis on fera un culte d'au revoir officiel le 6. Mais voilà, on a passé des années juste extraordinaires ici. Et je pense que je veux juste vous remercier pour votre attention, pour votre cœur, pour votre soutien, pour nous aussi. Vous étiez là et vous l'avez toujours été. Et parfois, on fait des trucs un peu bizarres quand je prêche ou des choses comme ça, mais vous m'aimez quand même et c'est bien. Et voilà, juste voilà, avec mes enfants, en tout cas, c'est la dernière fois qu'ils seront ici avec Lise. Et je ne sais pas si tu veux dire un petit truc.
Je veux vous laisser avec ces mots qui sont vraiment forts et qui s'imposent à moi. On laisse ces mots en partant. Tenez bon, sachez tenir bon. Vraiment, fidèlement, tenez bon sur le long et apprenez à lâcher prise. C'est vraiment ce qui vient sur mon cœur et on part avec ça. J'ai vécu ces 5 ans ici. Merci à tous ceux, à toute l'Église qui a prié pour moi. Je suis debout aujourd'hui, je peux à nouveau marcher, je peux à nouveau partir vers de nouveaux horizons parce que Dieu est fidèle. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Parfois, il y a le timing, je vous l'accorde. On n'a pas toujours le timing, on n'a pas toujours les mots, ni les forces. Mais sachez tenir bon sur le long et lâcher prise quand il le faut. Demandez à Dieu, là, est-ce que je dois tenir bon, m'agripper, ou est-ce que je dois lâcher prise? Mais sur le long, tenez bon, vraiment. Et nous partons, le cœur plein de paix, le cœur rempli de tout ce qu'on a pu vivre ici. Merci pour votre amour, merci pour la valeur de l'Église. Je prie pour tous ceux qui sont loin de l'Église en ce moment, peut-être, où vous restez derrière vos écrans, revenez. La communauté ne se remplace pas. Être à côté de quelqu'un, poser une main sur une épaule, être au bénéfice des prières de chacun, ça ne se remplace pas. Et nous allons vers une autre église, mais je crois que c'est la même église, avec un grand E, et vivement le ciel, qu'on puisse vivre cette symphonie. Il y aura, à mon avis, du bruit, mais on n'aura plus mal aux oreilles, et les sourds entendront.
Amen. Amen à ça.
Merci beaucoup. Merci à eux. Merci PS pour ce beau message ce matin. C'était derrière les formes, on s'attache quelquefois aux formes. Il s'occupe d'ados au niveau national, il l'a dit, mais c'est le fond qui compte. C'est ce qu'on retient, c'est ce qui nous a marqué. Et merci pour ce message profond. Je pense que chacun, nous repartons d'ici avec quelque chose de fort. Donc on aura l'occasion, il l'a dit, premier dimanche d'août, nous aurons l'occasion de dire au revoir de manière officielle, de remercier. Et remercier le couple, remercier la famille. On priera particulièrement avec Mathieu, avec toute l'équipe pastorale, avec les anciens, le conseil d'administration. On aura l'occasion de vous entourer et de prier tout particulièrement pour vous et pour la suite à Bourgoin-Joyeux. Bourgoin-Joyeux. Voilà. Eh bien, voilà, ce culte se termine. En partant, on va juste incliner notre tête dans la prière, demander au Seigneur de nous accompagner les uns et les autres et de nous permettre de vivre avec sa proximité toute cette semaine et les jours à venir. Seigneur, merci pour ce rassemblement, merci pour ta parole, merci pour le chant, pour la prière, merci pour la communion fraternelle, tout ce qui construit dimanche après dimanche, semaine après semaine, notre vie de foi, notre vie chrétienne. Merci pour tous ces éléments tellement précieux. On veut prier pour Pierre, Samuel, pour Lise, pour leur famille, bien sûr. On veut prier pour chacun d'entre nous. Merci de nous garder proches de toi. Et nous, forts de ce que nous avons reçu aujourd'hui, bien, allez dans cette semaine avec confiance, avec humilité, mais aussi avec obéissance. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Vous qui êtes en ligne aussi, que Dieu vous bénisse. Et à dimanche prochain.